Salut les extraterriens. Est-ce que vous prenez soin de votre épargne? Moi, j'ai eu la chance d'avoir un papa qui m'y a plongé tout de suite. Depuis tout jeune, j'ai appris à placer mon argent. Une autre activité que j'avais avec mon père, c'était de préparer le marathon. Et récemment, j'ai eu une réflexion que je voulais te partager. La course et le sport en général, c'est un peu comme l'épargne. Ça fait toujours peur au début, mais on ne regrette jamais d'avoir passé le pas. Plus on commence tôt, plus on est avantagé toute sa vie. Pour se lancer, le mieux, c'est d'avoir un plan et de s'y tenir dans la durée. Et enfin, pour réussir, il n'y a pas de secret, il faut être constant sur le long terme. Ça fait beaucoup de métaphores, vous ne trouvez pas? C'est pour cette raison que je voulais te présenter Quorum l'Épargne, notre partenaire. Quorum l'Épargne, c'est une entreprise dont la mission est de vous donner les clés pour naviguer dans le monde de l'épargne qui peut paraître complexe. Il propose des solutions d'épargne long terme et performantes qui sont à la fois transparentes, car c'est fondamental de comprendre où on place son argent, et accessibles, car certaines de leurs solutions permettent d'investir dès 50 euros. Donc c'est vraiment adapté à tout budget, et on peut même y investir un petit montant pour se lancer. Bon, je vous rappelle qu'il faut toujours être vigilant, et comme tout investissement, il y a toujours des risques. C'est également pour ça qu'il faut choisir un partenaire de confiance pour se lancer. Sachez que Quorum l'Épargne, c'est une équipe très sérieuse et un savoir-faire depuis de nombreuses années, des objectifs atteints depuis 12 ans. Ils accompagnent au quotidien plus de 120 000 épargnants et je leur fais confiance. J'ai moi-même ouvert un compte pour performer autant sur la piste qu'avec mon épargne. Pour finir, sachez que Quorum l'Épargne et le sport, c'est une histoire qui dure. Ils ont longtemps été engagés dans la voile et récemment, ils ont décidé d'accompagner 21 athlètes comme François Daen, Solène Pierret, que vous avez pu écouter sur le podcast Extraterrien. Donc la performance, c'est vraiment dans leur ADN. Et d'ailleurs, si vous souhaitez suivre la performance de leurs athlètes, allez sur le compte Instagram @quorum.sport. Bon épisode. Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Torder qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, allez mettre une note sur Apple Podcasts ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des sportifs connus à venir témoigner. Si vous écoutez plutôt sur Spotify, vous pouvez très facilement le partager en story sur Instagram, taguez-moi et je vous repartagerai. J'en profite donc pour vous rappeler le nom du compte Instagram, c'est extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire vos retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant Extraterrien Newsletter. C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour.
Et c'est parti, nous sommes du coup en train d'enregistrer et aujourd'hui je suis avec David. Salut David, comment vas-tu ?
Très bien, merci beaucoup, tout va très bien. On avance progressivement dans cette belle préparation pour Tokyo. Non, tout va bien. Merci.
Bon, bah cool. Bah, écoute, je suis vraiment ravi d'être là aujourd'hui parce que j'avais entendu parler plusieurs fois de toi et c'est Reizy qui nous a mis en relation, qui a fait encore un travail remarquable en me parlant de toi et en me disant que j'avais vraiment tout intérêt à venir t'interviewer. J'ai découvert ton parcours et j'ai été subjugué de voir que tu avais eu effectivement plusieurs vies en une un peu et que tu t'engageais énormément. J'ai vu que tu avais fait une petite carrière en politique, j'ai vu que tu faisais de la conférence, j'ai vu que tu étais à la CAN aussi, j'ai vu, enfin bref, comme tu l'as dit toi-même, tu as eu plusieurs vies. Donc je suis vraiment, moi j'aime beaucoup un peu les parcours un peu slasher, un peu multicasquette, et parce que c'est un peu aussi comme ça que je suis, je te le cache pas. Du coup, je suis très curieux et très enchanté de pouvoir échanger avec toi sur différents sujets. Et en plus, tu as été candidat au porte-drapeau justement pour les Jeux paralympiques récemment à Tokyo. Donc c'était, en plus, c'était un peu spécial, c'était soumis à un vote. Donc effectivement, ça sera un point d'ancrage pour toute cette conversation. Mais comme je te le disais, il y a une tradition sur ce podcast-là, sur le podcast extraterrien. La question avec laquelle on commence est toujours la même, c'est de savoir quel est toi ton premier souvenir de sport, quelles sont tes premières inspirations sportives quand tu étais plus jeune.
Alors d'abord, merci pour l'invitation. Pour répondre à cette première question qui va un peu briser la glace, on va dire, il y en a plusieurs. Il y a forcément un point énorme pour moi qui est l'ancrage des Jeux de 84 pour Los Angeles, que je suivais à la télévision très jeune, puisque j'avais juste 10 ans, et c'était un peu le mythe pour moi de voir Carl Lewis briller sur plusieurs épreuves, un athlète qui était super gracieux et en même temps tellement performant, tellement fort. Donc il y a ces éléments-là des Jeux Olympiques qui m'ont fait rêver, comme de nombreux jeunes hommes de mon âge à l'époque, comme de nombreux petits garçons, on va dire, mais y a plein de choses. Puis il y a aussi le fait d'avoir pu suivre des compétitions sportives à la télé avec les grands. À l'époque, on était invités en tant qu'enfants avec nos parents pour aller chez les copains, pour aller matchs de foot, de rugby, etc. Et c'est comme ça que j'ai aussi appris à avoir une critique constructive des moments du sport qui ont bercé mon enfance. Mais incontestablement, il y a eu 84, Los Angeles, avec Carl Lewis en grande figure de pointe. Et puis, dans un second temps, Barcelone 92, qui ont été des très très beaux jeux aussi et qui m'ont vraiment donné envie d'être moi aussi un jour un athlète, un champion. Voilà, c'est un peu le point de départ.
Ok. Donc plutôt une culture olympienne, on va dire.
Oui, tout en suivant le sport avec beaucoup de plaisir, quoi. J'ai des souvenirs jeunes de Roland Garros à la télé où je voulais pas quitter la télé parce qu'on devait aller manger au restaurant ou n'importe, mais il y avait encore un match en cours. Michael Padfort jouait contre Henri Lecomte à l'époque et j'étais à fond derrière la télévision. J'ai un souvenir incroyable du match du quart de finale à Roland Garros entre Michael Chang et Ivan Lendl à l'époque, un match de dingue où Chang jouait admirablement bien, il était combatif au possible et il voulait même toutes les chances de son côté, en fait. Il servait même à la cuillère pour perturber son adversaire. Il s'avançait dans le carré de service quasiment à la limite du filet pour pouvoir perturber Ivan Lendl, qui était le numéro 1 mondial à l'époque, et ça a marché, quoi. Et cette année-là, en 92, en plus, Chang gagne les Jeux. Gagne Roland Garros, pardon. J'ai eu l'occasion de féliciter 20 ans après. Une coïncidence, je l'ai rencontré à un hôtel à Paris, pendant Roland Garros d'ailleurs. Mais j'en ai un souvenir incroyable. Ouais. C'est des choses comme ça qui m'ont marqué et qui ont bercé mon enfance. Ça fait partie des souvenirs que j'ai en tête, en tout cas.
Ok, bon écoute, c'est hyper hyper touchant, et c'est vrai que je partage, enfin moi je suis peut-être une génération plus jeune, mais le match de Michael Chang et sa victoire à Roland Garros restera, je pense, gravé dans les mémoires de tout Français,
tout fan. Fou, il voulait pas s'asseoir pendant les changements de pause parce qu'il n'est pas dans des crampes aux jambes, donc il restait à moitié debout, à moitié assis. J'ai rarement vu un mec autant combattre dans un match, autant résister, autant tout faire pour y porter par la foi, en plus une foi énorme, hein. Quelqu'un qui est de confession mormon, on va dire, ou de pratique en mormon, mais très croyant, et c'était un match complètement dingue, quoi. Et puis il gagne Roland Garros cette année-là, donc de toute façon c'était sa année, c'était sa saison, c'était très fort. Mais j'ai aussi, bien sûr, en mémoire la Coupe d'Europe de football en 84 en France, hein, et qu'on a remporté. C'est les choses qui ont bercé mon enfance, et comme le sont aussi les Jeux Olympiques de 84 avec Los Angeles et Carl Lewis, notamment.
Ok. Voilà. Ok. Et toi, quel sport as-tu fait en premier? Est-ce que ça a tout de suite été la natation?
J'ai appris à nager très tôt. Mes parents voulaient, comme tout parent ou de nombreuses personnes, que j'apprenne à nager, pour que je sois plutôt à l'aise avec le milieu aquatique et que j'ai moins de risques de me noyer ou qu'il y ait de problèmes avec ça. Donc c'était un moment important, mais mon premier sport pour autant, et en compétition, dans la perspective de compétition, ça a été le judo, une très belle école de la vie, et un sport que j'ai fait pendant quasiment 10 ans. Donc voilà. Puis après, petit à petit, pour des raisons X et Y, étant entouré de nageurs notamment, et parce que le papa de plus ancien copain d'enfance, Cédric Acalas, on ne peut pas le citer, était directeur de la piscine où je m'entraîne encore aujourd'hui. J'ai passé beaucoup de temps chez eux à la piscine aussi, et c'est vrai que du coup, ça me donnait envie de nager, quoi. Lui-même faisait la natation, après il s'est mis au water polo, il a, voilà, bon. Mais ça a été mon second sport, et un sport qui a été quelque part salvateur aussi après un grave accident, puisque j'ai pu reprendre cette activité sportive, un peu comme une branche à laquelle me raccrocher pour reconstruire les maillons de la chaîne, quoi, et arriver à remonter la pente après, après ce drame. Mais oui, le sport a vraiment construit mon enfance, bercé mon enfance, et des souvenirs incroyables. Hein. Je veux dire, le judo, c'est aussi des brûlures au col à cause du kimono, c'est des luxations des orteils parce que dans le tatami, on s'accrochait les orteils. J'en pleurais, j'étais tout petit. Hein, donc, c'est ça aussi, hein, la vie de sportif, quoi.
Bien sûr, bien sûr. Et peut-être, effectivement, t'as abordé rapidement le sujet de ton accident. Peut-être,
oui.
Je sais pas si t'as envie d'en parler, mais t'as eu. Est-ce que ça a été une crainte de ne plus jamais pouvoir refaire de sport?
C'est une bonne façon de voir les choses. Si forcément cet accident a été quelque chose d'important dans ma vie parce que ça a changé radicalement mon quotidien. Le sport a été vraiment salvateur pour le coup, et grâce au sport, j'ai vraiment pu retrouver cette branche à laquelle me raccrocher et reconstruire un projet de vie avant un projet sportif, bien sûr, mais aussi avec en ligne de mire un projet sportif, parce que j'aspirais vraiment un jour à être un grand champion. En fait, que j'espérais, j'en rêvais, et c'est à travers cette reconstruction de ma personne que finalement j'ai décidé d'aller beaucoup plus loin en me reconstruisant en tant que grand champion, quoi. Et je me suis dit, tant qu'à faire, tout reprendre à zéro, voilà, le défi, il est colossal, mais il est beau. Et c'est comme ça que je veux qu'on me perçoive. Donc, oui, il y a forcément un moment où on a des inquiétudes, des angoisses. Il y a forcément un passage à vide aussi, un passage important. Mais le sport a été un élément incontournable de ma reconstruction et de mon éducation aussi en général, d'ailleurs. Je pense que c'est quelque chose qui a été très important dans mon éducation. Parce que à travers le sport, on construit des échecs, mais des victoires aussi. On apprend à rebondir. On apprend à ne pas avoir peur des échecs, et on apprend aussi à respecter tout ce qu'on a autour de soi. L'entourage, l'adversaire. C'est une très belle école de la vie et que je recommande fortement, forcément. D'ailleurs, c'est un petit peu une de mes tristesses, une de mes inquiétudes, que le sport n'ait pas encore une place de choix en France. Voilà. On est un pays de sport, oui. On n'est pas une grande nation de sport pour l'instant. Et j'espère que les Jeux de Paris 2024.
Pourquoi tu dis qu'on n'est pas une grande nation de sport?
Parce qu'on n'a pas cette culture du sport dans notre ADN. On n'a pas cette culture du sport au quotidien, dans nos écoles, dans la vie de tous les jours. On lui accorde pas une place aussi importante que dans des pays anglophones, par exemple. On n'y est pas la visite qu'on devrait y mettre. On n'y accorde pas les moyens financiers qu'on devrait lui accorder, je pense, pour permettre à nos jeunes de grandir, pour permettre à nos adultes, enfin, de s'épanouir aussi, et à nos seniors de mieux finir leur vie et de mieux avancer. Le sport est un très bel outil et qui, je pense, encore relayé un peu au second plan. Donc, une nation de sport, oui, une grande nation sportive, il y a encore un pas à franchir, il me semble.
Ok. Mais c'est vrai que je suis assez partagé, moi, sur ce sujet-là, parce que à la fois, on va dire que il y a de plus en plus dans les écoles des infrastructures sportives, il y a de plus en plus de mairies qui mettent des choses en place, et effectivement, il y a une espèce de cassure à la fin du collège, par exemple, dans le cycle éducatif, ou même avec les études supérieures, pour avoir eu la chance de faire des études supérieures où tu arrêtes complètement le sport. En fait, le sport disparaît sous prétexte que tu es devenu un adulte, tu as 18 ans. Maintenant, en fait, le sport tu dois te débrouiller tout seul, et c'est plus dans les universités, dans les écoles supérieures. Et alors que effectivement, c'est un vecteur de bien-être et un vecteur de qualité de vie énorme, quoi. Et c'est un vecteur de valeur, un vecteur d'éducation.
Complètement. Non, je suis vraiment d'accord avec toi là-dessus. On n'a pas ce lien en études secondaires, ou du moins dans un deuxième cycle, qui pourrait être un tremplin vers la vie professionnelle, que ce soit en tant que sportif de haut niveau, pourquoi pas même membre d'une équipe de France, hein, ou des équipes de France, ou simplement comme sportif passionné qui en fait un atout pour son CV, parce qu'il y a une visibilité pour l'université, parce qu'il y a des résultats sportifs qui sont intéressants, et c'est quelque chose qu'on peut percevoir différemment aujourd'hui dans les pays anglophones comme les États-Unis, même l'Angleterre, qu'en France, alors que il y a des sports comme le rugby qui pourraient au niveau universitaire amener de très beaux résultats et être un vivier des équipes de France entre autres, et puis aussi valoriser aussi l'université d'une autre façon que sur la partie intellectuelle. Donc c'est là il y a une distinction que je constate effectivement, et malheureusement quelque part ce fossé qui se crée. Le sport UNSS, ouais, que je connais bien, malheureusement n'a pas la place qu'il devrait avoir. Le sport UFOLEP, l'UCEP aussi, on ne met pas à l'école une priorité dans le sport, et on considère que c'est secondaire, que ce n'est pas prioritaire. Alors que pour le coup, je pense que pour la visibilité de l'école, la notion d'appartenance qui est tellement importante pour nos jeunes qui sont souvent en manque de repères, le sport pourrait être un outil vraiment intéressant. Et encore une fois, j'insiste beaucoup là-dessus, mais un tremplin pour des études supérieures ou un cycle universitaire ou des grandes écoles qui désormais conçoivent que les sportifs de niveau sont intéressants pour leurs écoles, pour leur vitrine, pour leur visibilité. J'en parle en connaissance de cause puisque j'avais été limite refusé en tant qu'étudiant à l'époque, ce qui était l'ESC de Grenoble, parce que j'étais athlète de haut niveau. Okay. Et depuis quelques années, on vient me chercher pour me demander d'accompagner les étudiants dans ce cursus, parce que c'est une belle visibilité aussi pour l'école, et elle en était très très fière. Donc on a un peu changé notre fusil d'épaule, je le conçois, mais il n'y a pas cette place de choix, encore une fois, il n'y a pas ce tremplin qu'on pourrait espérer, qu'on est en droit d'espérer, pour valoriser l'école ou le cycle universitaire ou les grandes écoles en général grâce au sport. C'est pas un outil qui est générateur de finances, malheureusement en France, alors qu'il l'est complètement aux États-Unis par exemple, ou en Angleterre, où grâce au sport, les universités s'enrichissent grandement et permettent aussi de pouvoir réinvestir dans la recherche, dans les éducations, dans l'éducation, pardon, dans les études et dans plein de domaines, dans de nombreux domaines, pardon. Et c'est pas quelque chose qui est encore ancré chez nous. Voilà. Un exemple, une anecdote qui est malheureusement un peu délicate, mais j'en parle quand même. En rentrant de Lima en septembre 2017, lorsqu'on va chercher lors de l'assemblée du CIO le précieux sésame avec la victoire de Paris 2024 et l'attribution de Paris de Los Angeles 2028, pardon, d'où l'attribution le même jour, ouais, 24 et 28, on rentre, on est reçu à l'Élysée, ouais, par les trois présidents qui avaient travaillé ardemment à cette victoire et qui avaient surtout fait valider l'engagement de la France pour ce projet olympique et paralympique, par la personne de Nicolas Sarkozy, François Hollande et bien sûr Emmanuel Macron qui est toujours notre président de la République. Et on apprend le même jour qu'on allait avoir une baisse du budget des ministères des Sports de moins 17%. C'était l'aberration. On se dit, mais on arrive de Lima, d'un long voyage, avec une victoire qui est hyper importante pour la France, parce qu'il y a plein de secteurs qui vont en être bénéfiques, hein, j'en suis persuadé. Et on nous dit que le budget va être réduit de moins 17%. On devrait dire, bah, parce qu'il y a une belle victoire et un enjeu qui est énorme, qui est colossal même pour notre pays, le ministère des Sports va recevoir une prime, une subvention exceptionnelle de 15 ou 17% plutôt, mais pas moins 17%. Ah, c'était l'inverse.
Ouais.
Ça nous invite à remis à notre place en nous faisant comprendre que malgré tout, malgré les deux, voilà, on n'aurait pas un supplément financier. Et pour le coup, pour connaître un petit peu le budget du ministère des Sports, en tout cas il y a quelques années, pardon, c'est peanuts, quoi, c'est très faible. 55 millions, c'est rien, c'est faible, c'est très faible. On a organisé la Coupe d'Europe de football en 2016. 55 millions, c'est même pas le prix d'un stade de foot. Parce qu'on n'a pas encore cet engagement partenariat privé-public. On est toujours dans les mêmes sphères en disant les collectivités doivent tout financer, mais ça marche pas comme ça, c'est pas possible. Donc je suis un peu attristé de cette façon de faire et de ne pas permettre au sport d'avoir une place importante, y compris dans le milieu éducatif, parce que c'est une source d'inclusion, c'est une visibilité pour les jeunes, c'est encore une fois aussi une visibilité dans le sens où c'est un moyen de pouvoir construire son identité et trouver sa place aussi quand on l'a pas forcément sur le plan intellectuel. On peut rééquilibrer les choses grâce à son épanouissement physique, grâce au sport. Voilà.
Ouais. Ouais, bah écoute, c'est vrai que c'est un sujet. Il y a plein de sujets dans ce que tu dis, et notamment, enfin, déjà sur l'éducation, je suis entièrement d'accord avec toi. Ce serait un vecteur de résolution de problèmes sur le long terme qui serait merveilleux, je pense. T'as parlé tout à l'heure d'inclusion, de sentiment d'appartenance, et je pense que ça réglerait le problème. Et un des soucis, c'est qu'on a aussi des représentants politiques qui ont des visions, des cycles de vision très courts, tu vois, quelques années, qui correspondent à leurs électorats. Et alors que là, nous, tous les deux, on est en train de parler de cycles de beaucoup plus longs, tu vois, de cycles d'une vie, tu vois, d'épanouissement d'enfants. Et du coup, il y a un espèce d'écart, si tu veux, entre les deux points de vue et les deux objectifs. Et c'est vrai que c'est très dommage, c'est très dommage. Mais je me posais la question par rapport à toi, tu vois, presque 20 ans, 30 ans en arrière, quand toi t'as eu ton accident et que tu voulais toujours et que tu t'es raccroché à cette branche qui était le sport. Comment est-ce que toi t'as fait pour justement découvrir toute cette filière qui est sur le handisport et le parasport? Est-ce que c'est facile? Est-ce que il y a beaucoup d'informations? Est-ce que ça a évolué aussi depuis? Parce que tu fais partie aussi des personnalités emblématiques, tu vois, qui ont énormément, qui essayent de prendre la parole le plus souvent possible, tu vois, pour ça. Il y a eu aussi des petits médias qui ont été créés. J'ai interviewé Benjamin Louise de Cœur Handisport, qui œuvre aussi, tu vois, à sa façon à pouvoir donner la parole et mettre en lumière de nombreux athlètes et essayer de porter la voix de toutes ces personnes-là. Mais si tu devais faire toi un petit flashback à l'époque, comment est-ce que tu t'y es pris et concrètement qu'est-ce qu'il y avait à l'époque? Est-ce que c'était à la portée de tout le monde? Est-ce que t'as eu un coup de pouce? Je serais très curieux de savoir comment est-ce que toi t'as pu rebondir à ce niveau-là.
Sont un peu les deux points que tu viens d'évoquer là à l'instant, à la fois un facteur positif qui m'a permis de pouvoir intégrer cette sphère du sport de haut niveau, ou du sport tout court, d'ailleurs, de la pratique sportive malgré le handicap, vers le haut niveau. Et puis, c'était mon choix et mon rêve de m'entraîner très dur pour pouvoir un jour intégrer le plus haut niveau, avoir cette reconnaissance de sportif et cette admiration quelque part. Il y avait la notion de rêve, hein, tout à l'heure, dont je voulais parler un petit peu, j'en parle brièvement maintenant. Dans le système éducatif, le sport fait rêver aussi, les rassemble, mais il fait rêver, et c'est fantastique, quoi. Donc, l'épanouissement, il vient aussi de ces choses-là, quoi, de cet élément-là. Mais il y a aussi un facteur chance. Un facteur chance, une coïncidence qui a voulu que lorsque j'ai eu mon accident, l'un des professeurs d'éducation physique et sportive du centre de rééducation où j'étais, un centre de rééducation qui était aussi un lieu d'étude pour des enfants ou des élèves qui avaient un handicap ou même une blessure ou un accident, un parcours de vie accidenté, et qui pouvaient poursuivre leurs études, eh bien Jean-Marc Clément, pour ne pas le citer, était aussi l'un des entraîneurs, des sélectionneurs de l'équipe de France handisport. Et quand il a su que j'avais un accident, que j'étais un nageur, tout de suite il est venu me voir, quoi, en me disant écoute, okay, tu nageais déjà avant, voilà, il y a l'équipe de France handisport qui existe, je pense que tu connais la culture sportive ou tu t'y intéresses, et j'aimerais qu'on en parle, et si tu veux te remettre un peu à nager, on peut essayer, on peut proposer des choses, et c'était un petit peu cette bouée qu'on m'offrait quelque part, et donc j'ai forcément dit oui. C'était un beau challenge pour moi, mais aussi simplement parce que d'une manière générale, et dans le contexte historique du sport paralympique tel qu'il est aujourd'hui, il a commencé dans les centres de rééducation, hein. Les Jeux de Stockmanville, le professeur, le Sir Ludwig Goodman, qui était un ancien médecin israélien qui a quitté l'Allemagne, enfin juif plutôt, qui a quitté l'Allemagne nazie pour pouvoir exercer en Angleterre et notamment à Stockmanville près de Londres, a considéré que les blessés de guerre, grâce au sport, pourraient retrouver une identité, un lien social incroyable. Et la pratique sportive parasport est née comme ça, en fait. Et puis, il y a eu ces fameux jeux intercentres, les jeux de Stockmanville, avec plusieurs centres de rééducation qui fournissaient un certain nombre de champions ou de sportifs, pour que ça prenne ensuite un essor beaucoup plus important et que ça devienne finalement ce que sont aujourd'hui les Jeux paralympiques. Voilà. Mais le sport parasport, le sport handisport est né dans les centres d'éducation au départ. C'était un premier vivier de sportifs, de champions. Donc, c'est comme ça que ça a commencé aussi pour moi. on va proposer de faire du sport comme l'activité ludique de kinésithérapie en quelque sorte, et c'est ce qui a été vraiment intéressant, quoi. Donc plusieurs éléments, bien sûr, une forme de détection ou des propositions de me raccrocher à la natation que je connaissais déjà un petit peu grâce à cette personne, et à mon ancien chef kiné, Jean-Max Vernet, qui malheureusement n'est plus de ce monde, mais qui a eu l'idée de proposer en tant que sportif à Jean-Marc en disant, bah, tu vois, on a un nageur qui est très volontaire, qui a eu un accident de la route, ça serait super que tu puisses le prendre avec toi parce que il pourrait être un bel athlète. Voilà. Et puis dans la rééducation qu'il met en place aujourd'hui, le sport et la natation pourraient vraiment l'aider, quoi. Alors, j'ai essayé plein de choses, j'ai essayé le basket aussi, j'ai fait plein de choses, mais logiquement, je me suis raccroché à quelque chose que je connaissais bien, la natation, quoi. Et puis encore une fois, parce que, bah, je répète, le sport paralympique, le sport omnisport est vraiment né, il est issu des centres de rééducation.
Ok.
Donc, okay, c'est okay. Deux points d'ancrage importants. Et puis après, la volonté de se battre, de construire quelque chose. Le défi est de rendre quelque chose qui paraissait impossible possible et de montrer au monde entier que je pouvais faire quelque chose et que mon combat, il était intègre, quoi. Je reprenais tout à zéro et puis tant qu'à faire, pourquoi pas après tout.
Et
avec cette idée en tête, hein, j'insiste beaucoup là-dessus, mais je reviens rapidement, avec cette idée en tête d'être un jour un grand champion et de pouvoir aller peut-être un jour aux Jeux paralympiques, à défaut de pouvoir aller aux Jeux olympiques, je me disais, tu pourras peut-être être champion paralympique, quoi. Et on savait déjà qu'à l'époque, c'était quasiment la même chose. Aujourd'hui, c'est complètement la même chose. Les médias, tout ce qui va avec, qui valorise le sport en e-sport et les Jeux paralympiques, ont clairement démontré que le haut niveau paralympique est très exigeant et que c'est du très très haut niveau, point final, quoi. Le handicap n'est que secondaire quasiment, hein, voilà. Mais ouais, c'était quelque chose qui était important pour moi, vraiment, cet ancrage, cette possibilité de pouvoir rebondir et de me dire, bah, de cet accident, tu vas en faire une force pour te reconstruire. Et aller toucher à ce rêve incroyable d'être un Olympien ou un Paralympien, quoi.
Ouais, ok. Et bah, si je comprends bien, tu vois, il y a à la fois effectivement toi cette envie que t'avais depuis très longtemps, j'ai l'impression, et ce désir ardent de vouloir faire du sport ta vie ou en tout cas une partie de ta vie et de vouloir pratiquer le sport de haut niveau. Et en même temps, effectivement, une part de chance, comme tu le disais, de cette rencontre et des opportunités qui se créent autour de toi et des gens qui t'entourent. Est-ce que tu penses que tu vois aujourd'hui, il y a les infrastructures pour quelqu'un qui n'aurait peut-être pas eu cette part de chance ou qui n'aurait peut-être pas eu, tu vois, ce désir ardent de faire du sport de haut niveau, mais juste comme un outil de santé, justement, pour quelqu'un, voilà, qui peut avoir un accident, qui peut avoir, je sais pas, qui peut arriver n'importe quoi, mais justement pour utiliser le sport comme outil de pour rebondir et se reconstruire. Est-ce que tu penses que on a évolué dans le bon sens aujourd'hui par rapport à ça?
Oui, malgré tout, et même s'il n'a pas encore ce que j'appellerais une place de choix, le sport reste un élément important dans notre société, et je crois, oui, enfin, profondément que, il y a une considération pour le sport, notamment quand on a un accident, qui démontre que c'est presque une nécessité, c'est pas un luxe, c'est pas une activité ludique uniquement, c'est vraiment un besoin de pouvoir gagner en autonomie, en mobilité, voilà, baisser les risques de sédentarité, pardon. Et puis encore une fois le lien social que le sport procure, quoi. Puis après il y a la partie média avec la visibilité des Jeux paralympiques qui amène une belle vitrine du handicap en général. Ça c'est encore autre chose, mais je crois qu'il y a des choses qui sont existantes, des infrastructures qui sont de plus en plus accessibles. On travaille dans ce sens-là en tout cas. La loi y contribue grandement, même si elle n'est pas suffisante. Les Jeux de Paris olympiques et paralympiques notamment devraient, j'espère en tout cas, contribuer grandement à ce changement de regard. Pour permettre d'avoir un ancrage en profondeur du sport dans notre société. Et puisque tu parles d'infrastructure, c'est quelque chose sur lequel moi je travaille, notamment en tant que consultant qualité d'usage pour les équipements de Paris 2024, un marché que j'ai remporté avec une société qui s'appelle Axémétrie, avec qui j'ai déjà travaillé pour le Stade de France notamment, dans la perspective de Paris 2012 d'ailleurs, comme quoi ce sont les grands événements sportifs qui créent des dynamiques ou des synergies pour rendre les lieux un peu plus accessibles encore, au sport paralympique notamment. Mais il y a aussi un programme dans la perspective de Paris 24 qui s'appelle La Relève, un programme de détection des champions de demain, de cette génération 2024 qu'on veut voir briller à Paris, bien sûr. Donc oui, les Jeux sont un levier fantastique pour ça, et forcément les Jeux à Paris en seront un exemple, je l'espère en tout cas de tout cœur. Hein. Voilà, j'essaie d'être réaliste, mais en même temps idéaliste dans ce sens-là, parce que si on ne l'est pas à ce moment-là, on ne le sera jamais, hein. C'est peine perdue, quoi. S'il y a bien une opportunité qu'il faut saisir et ne pas rater, c'est celle de Paris, c'est ce virage à 45 degrés qu'on doit prendre, 90 degrés même, qu'on doit prendre pour le sport, et voilà. Phil Craven, Sir Phil Craven, j'ai envie de dire même, ancien président du comité international paralympique, qui a été remplacé par une personne que je connais très très bien aussi, qui s'appelle Andrew Person, qui est brésilien, disait à la salle de clôture des Jeux de Londres qu'on fait un grand boom dans la partie média et la reconnaissance du mouvement paralympique, qu'il avait rencontré différents partenaires dans un métro, ce qu'ils appellent les games makers, c'est-à-dire les gens qui font les jeux, les bénévoles en fait, et qui voyaient quelqu'un en fauteuil ou avec un handicap, avec une prothèse. Et la première réaction de Phil Craven, c'était de se dire ça doit être un athlète. Parce que c'était pour eux une évidence qu'une personne qui avait un handicap, dans le métro à Londres, pendant les Jeux paralympiques, c'était un athlète. Et ça montre à quel point le sport a une place importante en Angleterre, au Royaume-Uni en général, quoi.
Ouais.
Voilà, mais on avance petit à petit. Voilà, je regrette qu'on n'ait pas encore ces budgets, et c'est le nerf de la guerre, hein, l'argent pour faire avancer les programmes de développement et nos équipes nationales. On peut faire des éléments de comparaison facilement et régulièrement. Le budget de l'Angleterre pour les Jeux paralympiques de Londres, c'est pour la natation seulement. Hein, pour l'équipe de natation, c'est 464 000 euros. Le budget de l'équipe de France, c'est 90 000. Le budget, y compris 25 ou 30 000 euros pour la jeunesse, pour le pôle France à l'époque à Vichy pour les jeunes, sur lesquels on investit aussi beaucoup d'argent. Autre exemple, pour la même période ou un peu plus tard, Rio 2016, Jeux paralympiques, le budget de la Hollande, des Pays-Bas, pardon, pour la natation paralympique, c'est 390 000 euros. La France, ça reste 90 000 euros, quoi. Et ils sont autant de champions que nous, autant de sportifs. Quand on a, 4 fois 9, 36, quand on a 4 fois le budget, ça permet de préparer une saison paralympique et olympique, paralympique en tout cas de façon différente, quoi. D'aller plus souvent en stage à l'étranger, de pouvoir avoir plus de moyens, oui, bien sûr. C'est pas la seule solution, il n'y a pas que l'argent qui compte, mais ça y contribue grandement, c'est évident. Mais ça montre aussi la place que le sport peut prendre dans ces pays-là, quoi. L'Angleterre est un pays très sportif, les Pays-Bas en sont un pays très, très sportif aussi. Donc, on avance, mais j'ai envie de dire, c'est temps qu'on passe la seconde, quoi. Voilà. J'aimerais bien que la France passe la seconde et qu'elle se dise il y a aujourd'hui un réel intérêt à mettre en place des partenariats publics et privés ou privés-publics, parce que les deux peuvent faire rayonner un pays, l'un dans la question de l'économie de notre pays et le deuxième dans la question de l'héritage que l'on veut avoir grâce au sport. Et je prends l'exemple de Paris 2024, le COJO, qui est le comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques, est financé par des structures privées, des entreprises.
Ouais.
Des partenaires premium, en l'occurrence, qui mettent beaucoup d'argent, hein, 1 500 000 euros pour pouvoir intégrer ce groupe privé de partenaires, ce groupe élite de partenaires. Et puis, il y a la Solidéo, qui est l'engagement public, financier, pour l'héritage que sont les équipements sportifs. Voilà. Donc, le privé, oui, mais le public aussi, pour une autre raison. Mmh. Ou même l'inverse, le privé, le public, oui. Parce que les collectivités, parce qu'on a besoin d'équipements sportifs, parce que c'est l'héritage et ce qu'on doit garder dans nos villes, dans nos régions, dans nos départements. Et je rappelle que Paris, c'est pas qu'un projet uniquement sur Paris, mais dans toute la France. Le football, le rugby, la voile, le surf va même changer de continent pour aller dans les dom-toms avec Tahiti et Teupo. Bien sûr que c'est quelque chose qui doit rayonner en France et c'est important. Et puis, pour le coup, l'argent qui est investi, c'est l'argent qui reste, quoi. C'est l'héritage, c'est l'équipement sportif. Alors que le COJO, l'organisation, c'est financé par du privé.
Ouais, je vois. C'est vrai qu'il y a des vrais enjeux de trouver des modèles pertinents entre le privé, le public. Je m'y connais pas assez, donc tu vois, je m'épancherai pas sur le sujet, mais peut-être. Peut-être pour revenir à toi, aujourd'hui, toi, quel est ton... On voit que tu es un puits de savoir, tu vois, sur le sujet. Du coup, j'en profite, mais quel est toi aujourd'hui, ton engagement, et quel est ton rôle à toi
Je m'intéresse. je m'en intéresse. C'est pour ça que j'essaie d'être un puits de science ou de réponse à ce sujet. Je suis, comme tu l'as dit tout à l'heure à l'introduction, membre de la CAN, la Commission des athlètes de haut niveau du Comité national olympique sportif français, au sein de laquelle je représente depuis 2008 le mouvement paralympique. J'en suis d'ailleurs très, très fier. Et on travaille sur ces sujets-là, la reconversion des sportifs, on travaille sur la question de plein de choses, quoi, les qualités femmes-hommes, la discrimination, les violences dans le sport, enfin plein de sujets très importants. Et oui, forcément, il y a des dispositifs d'aide pour nos athlètes, pour nos champions qui sont importants et dont on parle. Et le pack de performance, par exemple, en est un parfait. Les entreprises s'investissent pour aider les athlètes, pour les prendre avec un contrat d'image, par exemple, ou pour une CIP, une convention d'insertion professionnelle qui permet pour dégager du temps pour l'entraînement, tout en étant salarié d'une entreprise. Et l'entreprise, derrière, va accompagner le jeune sportif ou le sportif dans le cadre de sa reconversion future. Donc, ce sont des sujets très importants, bien sûr, dont on parle et qu'on essaie de faire avancer aussi, quoi.
Ok. Et donc ça, toi, c'est principalement ton engagement aujourd'hui, principalement, il se fait au sein de la CAN. Donc j'ai eu la chance de recevoir déjà plusieurs athlètes qui en font partie. Je pense à Astrid Guyard et à Ayodele Ikwesan, que tu dois probablement connaître.
Très engagé aussi, que j'aime beaucoup, avec qui je travaille. On est dans les mêmes groupes de travail, hein, avec Astrid et Ayo. On bosse ensemble sur la non-discrimination, sur les luttes contre la discrimination dans le sport en général. Oui, voilà, c'est des gens qui n'ont pas leur langue dans la poche, comme on dit, mais qui maîtrisent ces sujets-là, quoi, vraiment. Astrid est un exemplaire, qui est aujourd'hui notre coprésidente de la commission des athlètes, de la nouvelle commission 2021-2025, que je devrais pouvoir réintégrer de nouveau en tant qu'athlète coopté au mois de septembre prochain, puisque nous sommes cooptés au titre du mouvement paralympique. Mais oui, c'est un de mes engagements principaux. Après, je suis aussi un ancien membre de la commission des athlètes du Comité international paralympique et aujourd'hui la tête représentante de la World Paraswimming, de la natation paralympique. J'ai été élu par mes pairs, hein, PAIRS, donc par les athlètes eux-mêmes, avec trois autres personnes. Anna Hines, qui est une ancienne nageuse américaine, Felipe Rodriguez, qui est un nageur brésilien, et Matt Levy, qui est un nageur australien. Donc, on est sur tous les continents et c'est super. Mais c'est un engagement de fond qui est important parce que sur les sujets qu'on traite aussi au niveau international, la question du dopage, la question des reconversions des carrières des athlètes, la question de l'égalité femmes-hommes, les violences dans le sport, enfin toutes ces choses que j'ai citées en amont, et qui sont très très importantes. En collaboration avec des associations qui sont très engagées, hein, pour les violences dans le sport, on parle beaucoup du Colosse au pied d'argile, une super association qui travaille pour dénoncer ces soucis-là qui existent. Et dont on a parlé il y a quelques mois au sein de la CAN, puisqu'on a aussi dénoncé des violences et des sujets importants qui sont revenus à la surface, malheureusement. Mais bon, voilà. La question de la carrière est très importante et l'emploi derrière, les compétences qu'on peut avoir, le double projet athlète-carrière est très intéressant, quoi.
Ouais, bien sûr. Et la question que j'aime bien poser et je suis curieux d'entendre ta réponse, tu vois, c'est pourquoi est-ce que t'as choisi de t'engager autant, tu vois, je veux dire, aujourd'hui vous êtes plusieurs milliers, tu vois, d'athlètes reconnus comme étant athlètes de haut niveau. Au sein de la CAN, vous êtes quoi? Vous êtes une poignée, je crois, quelques...
On est 43, dans le nombre de fédérations qui existent en France, 40, 43, on est pas beaucoup.
Et donc, tu vois, c'est relativement peu, c'est du travail en plus, c'est des sujets qui sont complexes, c'est pas facile parce qu'il y a un peu aussi de politique, de bureaucratie.
Bien sûr.
Ça avance pas forcément facilement, tu vois. Et toi, d'autant plus, enfin, tu vois, j'imagine que peut-être à l'inverse de d'autres athlètes, t'as peut-être encore plus, tu vois, de choses à pas forcément à prouver, mais tu vois, à mettre en place. Ce que j'ai envie de dire, c'est que ton temps est sûrement encore plus précieux que d'autres athlètes, tu vois. Je pense que dans tous les sports, il y a encore des écarts, tu vois. Certains s'entraînent plus que d'autres, d'autres ont plus de facilités logistiques, tu vois. Enfin bref,
bien sûr,
on peut imaginer plein de choses. Mais pourquoi est-ce que tu as choisi de faire tout ça, en fait? Pourquoi est-ce que qu'est-ce qui t'a donné envie de t'investir autant?
Il y a d'abord l'envie d'appartenir à un mouvement qui nous soutient au quotidien et qui apporte sa pierre à l'édifice pour le monde du sport. nos fédérations, nos comités. Donc forcément, le comité olympique en est l'exemple même, puisque malheureusement, j'ai envie de dire, le comité paralympique n'avait pas encore dans ses statuts cette possibilité-là de pouvoir mettre en place une commission des athlètes. Ça ne serait tardé, enfin, mais il a fallu un peu de temps pour ça. Donc il y a cette appartenance à un mouvement sportif, mais aussi parce que quand on veut faire changer les choses, les optimiser ou les faire évoluer, les faire grandir, la seule solution, c'est de s'engager, quoi. D'être ce porte-parole pour les camarades athlètes, de tâcher de faire en sorte que les sujets dont on parle évoluent et soient source de réponses, même si, comme tu l'as cité, c'est pas toujours facile. Même dans les plus hautes instances, on a été reçus, enfin les filles ont été reçues à l'Élysée plusieurs fois et on n'a pas forcément eu toujours des retours, quoi. Et c'est compliqué. Il y a beaucoup d'enjeux politiques aussi, c'est vrai. Et puis beaucoup de faire preuve de diplomatie, hein, sur ces choses-là. Faut être vigilant. Il faut pas. Voilà, on n'a pas la capacité de pouvoir tout dire, mais le sportif doit avoir sa place au sein des grandes décisions, au sein des commissions sportives et simplement des grandes fédérations, des grandes institutions du monde du sport, parce que sans athlète, il n'y a pas de sport, quoi. Il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de projet, il n'y a rien. Donc, dans la mesure où on est au cœur du dispositif, la meilleure façon de le contrôler et de le faire progresser, c'est de s'engager, c'est d'être au cœur de ce dispositif. Voilà. D'en être un peu les garants, mais aussi d'en être aussi les responsables et les acteurs, surtout. Voilà. Donc, c'était aussi mon choix. Et c'est venu de l'international à la demande de ma présidente actuelle de la Fédération française d'e-sport, que je salue au passage, Guylaine Westelink, qui a été mon entraîneur national pendant les Jeux de Pékin en 2008 et en 2004 aussi, mes premiers Jeux à Athènes. Guylaine me disait souvent que la meilleure façon de pouvoir justement faire changer les choses, c'est de s'engager, quoi. Mais elle m'a demandé si j'étais d'accord pour être candidat pour intégrer la commission des athlètes de l'IPC. Donc, comme le poste de Tony Estanguet il y a quelques temps au CIO, la commission des athlètes du comité international olympique, on a une commission des athlètes du comité international paralympique. Les athlètes sont élus de la même façon aux Jeux paralympiques ou aux Jeux olympiques, par les athlètes pairs, par tout le monde. Il y a un bureau de vote, on vote pour un certain nombre d'athlètes, 6 en l'occurrence l'été et 3 l'hiver. Puis il y a une rotation tous les 4 ans, une permutation qui se met en place. Bon. Donc, cette reconnaissance qui a été incroyable pour moi d'avoir été élu en 2008. Tout le cérémonial qui va avec aussi, on défile dans le stade pendant la cérémonie de clôture, on est mis à l'honneur, et c'est aussi quelque chose de très chouette, mais c'est une belle reconnaissance de l'engagement qu'on peut proposer en faveur du sport. Et puis, je crois simplement que derrière, puisque j'ai été membre de droit de la commission des athlètes du CNOSF, je me suis dit, faut pas siéger parce qu'on est membre de droit, il faut siéger parce qu'on a un engagement, parce qu'on a envie de faire bouger les choses, de faire bouger les lignes. Voilà. Et puis, comme j'avais accepté d'être candidat pour la commission internationale et de représenter ce mouvement paralympique, de le faire grandir aussi et d'accorder une place de plus en plus importante aux sportifs, parce que ce sont les sportifs les premiers concernés, j'ai voulu poursuivre l'aventure, quoi. Loin de moi l'idée de quitter ce beau bateau à quelques années de Paris, quoi. J'ai envie d'être un acteur comme mes camarades de ce changement, de cet engagement au titre du sport. Et puis j'ai envie de dire, c'est peut-être aussi une façon de rendre au sport ce qui m'a apporté quelque part aussi. Donc voilà.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ok. Bah écoute, je trouve ça très beau et très très louable, en tout cas de te l'entendre dire, et on sent, je trouve dans tes mots, que t'es un petit peu pris d'une mission en quelque sorte, tu vois, et que pour toi c'était un choix un peu évident et presque inévitable. Donc ça me fait plaisir de t'entendre dire, et je me On sent que tu vois, il y a beaucoup de aussi de côté un petit peu patriotique dans différents de tes mots et dans le début de ta prise de parole. Et j'avais vu que tu avais obtenu deux médailles, je crois, les chevaliers de la Légion d'honneur et chevaliers de l'Ordre national du mérite.
Oui, exactement.
Et je me suis demandé, tu vois, j'ai jamais abordé le sujet sur le podcast, et pourtant bon, d'autres athlètes ont eu ce type de récompense. Mais qu'est-ce que ça fait? Est-ce que ça change, tu vois, quelque chose hormis effectivement le passage à l'Élysée et la remise d'une médaille? Est-ce que ça change? Est-ce qu'il y a des choses qui changent dans ta vie après un événement comme ça, après une telle récompense ou une telle reconnaissance, pardon?
Oui, forcément, c'est pas l'aboutissement en soi. On fait pas tout ce travail à l'entraînement pour être reçu à l'Élysée et recevoir la Légion d'honneur ou l'Ordre du Mérite en fonction de la médaille. Mais c'est forcément quelque chose de très très beau et voilà, on n'est pas non plus très très nombreux enfin en France à avoir été décoré une certaine quantité. Je crois qu'il y a entre 5 et 10 000 personnes. Je sais pas dire de bêtises. Je sais pas exactement quels sont les chiffres, mais peut-être 20 000 en tout, je crois. C'est pas énorme. 160 millions, 72 millions, peut-être 20 000 personnes qui ont la Légion d'honneur. Il y a une reconnaissance parce que c'est une distinction prestigieuse en France, la plus haute, qui d'abord a été créée au titre civil avant d'être créée au titre militaire. Et j'en ai même été assez offusqué parce que lorsque j'avais appris que j'allais être récipiendaire de la Légion d'honneur et que j'allais être décoré par le président Sarkozy en l'occurrence en 2008 après mes médailles d'or à Pékin, j'ai entendu beaucoup de critiques dans la presse à ce sujet. Ah, on met la Légion d'honneur à tout le monde, c'est facile de l'avoir maintenant. D'abord, c'est pas facile d'être champion olympique ou paralympique, loin de là. En même temps, on porte aussi l'arme de la France, de notre pays. On défend le drapeau bleu blanc rouge. Et oui, il y a quelque chose en moi qui résonne pleinement quand je parle de ça, quoi. J'ai d'autres engagements dont je parlerai tout à l'heure aussi, au sujet du patriotisme que j'évoque là, maintenant, à l'instant, à la minute 42. Mais c'est bien sûr un honneur immense. Une fierté qui nous donne aussi un certain nombre de responsabilités vis-à-vis de la France, de la nation et du sport en général, quoi. Moi, je le prends à cœur parce que c'est pas une mission en soi, mais on doit montrer l'exemple, on doit être, on n'a pas de on signe pas un engagement en tant que récipiendaire de la Légion d'honneur ou de l'Ordre du Mérite pour le faire comme on serait élu à un poste militaire clé, un hein, général ou colonel, etc. Mais au-delà de la fierté, il y a un engagement, il y a une responsabilité aussi de porter ça sur les épaules, quoi, bien sûr. Maintenant, patriotique, oui, je le suis profondément, et le sport permet de l'être pleinement, sans qu'on soit accusé de nationaliste, de fasciste, je ne sais quoi. D'ailleurs, je trouve dommage que...
souvent l'amalgame.
Pardon ?
Il y a souvent une mécompréhension du patriotisme, tu vois.
Ouais, on n'est pas assez fier de notre drapeau et on le sort pas assez souvent. Je dis pas qu'il faut faire comme c'est un pied de nez que je fais à l'Algérie, hein. C'est pas méchant du tout, mais on voit le drapeau algérien, vive l'Algérie partout. J'ai des souvenirs incroyables. À un concert, j'avais été invité au Stade de France pour le concert de Rihanna. Dans une loge spéciale avec les fans de Rihanna qui étaient des gens qui ne font que relayer sa vie et son parcours sur Twitter. C'était des community managers de Twitter pour Rihanna, bref. Et à la fin du concert, il y a une jeune fille qui était une fan de la chanteuse, bien sûr, forcément comme tous, mais qui sort son drapeau algérien et qui crie « Viva Algérie, viva Algérie !» Je me suis dit « Mais qu'est-ce que ça fout ici, quoi ?» C'était incroyable. Ça m'a fait beaucoup rire, bref. Mais nous, à défaut, à tort, on a peur de ça, quoi. Et le sport est une des rares opportunités, occasions pour mettre du bleu blanc rouge partout, quoi. Moi, j'ai la chance de rencontrer différentes personnes qui mettent du bleu blanc rouge partout et dans le ciel notamment. Et je pense à la patrouille de France, puisque j'ai quelques copains qui sont pilotes. Et j'ai beaucoup de respect et d'admiration pour ces personnes-là qui portent très haut les valeurs de notre pays, quoi. Et c'est avec beaucoup de générosité, mais d'humilité à la fois et d'émotion que je dis ça parce que ça représente beaucoup, quoi. Il faut qu'on sache faire notre pays. Ouais. On a un pays de liberté qui est incroyable. On a un pays qui a su grandir et construire un système social incroyable. On a une vraie histoire qui est belle et qui est riche. On a parlé il y a très peu de temps de Napoléon parce que c'était la commémoration aussi de son règne, même s'il a été controversé et parfois ajouté de titre aussi, mais n'empêche que c'est à lui qu'on doit cette Légion d'honneur, c'est à lui qu'on doit ce titre prestigieux qui a d'abord été mis en place pour le civil en remerciement d'un acte de bravoure ou de quelque chose de particulier, d'une distinction qu'on voulait offrir à des gens qui avaient fait une bonne chose dans la société. Et puis ensuite, au second titre militaire, pour les pupilles de la nation, pour les gens qui sont dévoués pour le pays au combat ou morts au combat parfois. Voilà. D'ailleurs, on la décerne parfois aussi à titre posthume, hein, pour le coup. Et je trouve ça très très bien de le faire. Mais ouais, il n'y a pas qu'une fierté, il y a un engagement aussi, une responsabilité et un honneur qui est immense, quoi, qui est vraiment immense. Enfin, j'ai pu serrer la main de Jacques Chirac, j'ai pu serrer la main et faire la bise à Nicolas Sarkozy, j'ai pu serrer la main à François Hollande ou serrer la main encore à Emmanuel Macron. Un président reste un président et c'est pas un homme comme tout le monde. Donc, ouais, j'en suis très fier, hein, d'avoir été reçu à l'Élysée plusieurs fois et c'est un moment solennel, c'est un moment prestigieux, c'est un très bel endroit à l'Élysée. C'est le berceau de la France, c'est très symbolique et je suis attaché à ces valeurs-là, à ces choses-là, quoi.
Ouais.
Voilà, seul le sport. Il y a une chose que je vais dire pour clôturer ce propos-là ou cette partie-là. Il y a deux choses dans le monde qui rassemblent les pays du monde entier, quoi. Deux seulement, hein. La première, c'est la guerre, malheureusement, ouais, qui rassemble les peuples et qui se détruisent, mais qui les rassemble quand même, pour une mauvaise cause, pour un mauvais but. Et le deuxième, ce sont les Jeux Olympiques et Paralympiques qui rassemblent tous les pays du monde entier pour une belle cause cette fois-ci. Il y a que deux événements dans le monde qui font ça. La guerre et les Jeux. Donc moi j'ai choisi le deuxième, les Jeux pour le coup. Mais ouais, rencontrer les gens du monde entier, partager, c'est faut être fier de ça, quoi. Et fier de notre drapeau, fier de notre Marseillaise, fier de voilà, c'est un hymne au dépassement, un hymne à la victoire, c'est plein de choses.
Bah écoute, j'avais jamais vu effectivement, j'avais jamais vu que ce parallèle entre la guerre et les jeux et même plus largement les compétitions sportives, mais du coup je te la reprendrai je te la reprendrai parce que c'est vrai que le parallèle est très intéressant et l'opposition assez flagrante, mais
oui, complètement.
Mais pour rebondir peut-être ouais, c'est effectivement sur le sujet un peu du patriotisme et du drapeau, c'est vrai j'ai l'impression qu'on est un peu traumatisé en France, je sais pas si c'est la politique qui a fait ça ou quoi, mais on n'ose plus effectivement comme tu l'as dit être fier de nos couleurs, être fier de notre hymne, qu'on peut vite, tu vois, catégoriser les gens qui ont un drapeau français chez eux, on peut vite les mettre dans des cases et alors que non, quoi. Enfin c'est vrai que c'est assez surprenant et je partage vraiment le même sentiment que toi et merci beaucoup pour ton point de vue parce que ça a mis des mots sur quelque chose que je ressentais au plus profond. C'est moi je me sens extrêmement patriote mais je l'assume peut-être pas, en fait, enfin pas forcément, si je l'assume, mais ou en tout cas j'ai l'impression que ça s'exprime pas autant que j'aurais envie que ça s'exprime, tu vois, et pourtant effectivement je suis vraiment fier d'être français, je suis fier de ce pays, je le trouve magnifique, je trouve que les gens ils sont aussi formidables. Et que c'est la différence fait partie de notre culture et que nos valeurs sont magnifiques.
Complètement.
Et on se laisse pas assez le dire, quoi. On n'est pas assez chauvin. On n'est pas assez chauvin à ce niveau-là, quoi.
Et pourtant, au-delà des drapeaux français, il y a d'ailleurs une devise, hein, de la République, liberté, égalité, fraternité, qu'on retrouve devant nos écoles. Et je trouve dommage qu'on n'ait pas ce drapeau en permanence devant l'école, devant l'université, devant les lieux culturels, avec cette même devise partout. Alors, au moins à l'école, au moins dans les collèges et les lycées, quoi. Et que, je dis pas qu'il faut être au garde à vous tous les jours, au lever de drapeau, mais que, bah, quand on rentre dans une institution, scolaire, universitaire, on passe la porte, on passe le seuil de la porte et avec un drapeau français au-dessus de la tête et tout ce que ça correspond, tout ce à quoi ça correspond, pardon, et cette devise importante qu'est la devise de la République, liberté, égalité, fraternité. On l'a un peu marginalisé, banalisé, on l'a un peu oublié. Donc, je pense que ton sentiment, il est légitime parce qu'on ne nous laisse pas nous exprimer, on ne nous laisse pas être fiers, on ne nous laisse pas être un peu chauvin parfois, on a du mal à le faire. par timidité, par pudeur, je ne sais pas pourquoi, quelles sont les raisons exactes, mais on ne nous permet pas de faire ça facilement, sans avoir peur d'être jugé, etc. Et pourtant, autour de nous, il y a plein de gens qui le font d'une autre façon, pour d'autres raisons, pour la religion, ouais. pour des coutumes ou des us et coutumes qui leur sont propres. Je pense notamment à la question des produits halal, par exemple, dans notre pays, enfin lequel j'ai aucun problème, hein, bien entendu. Étant moi-même de culture juive, je mange pas kasher en particulier, mais c'est quelque chose que je respecte, et les gens qui le font, pas de souci, hein, c'est mm-hmm. tout à fait honorable. On accepte des autres certaines choses, et dans notre propre pays, sous notre propre drapeau, on n'arrive pas, on n'ose pas s'entourer de notre drapeau, on n'ose pas s'habiller de notre drapeau, on n'ose pas s'envelopper dans notre drapeau parce que on serait considéré comme peut-être trop patriotique et limite nationaliste, limite. Ouais, nationaliste, c'est ça, je pense. Et c'est, il y a une différence fondamentale entre le patriotisme et le nationalisme. Voilà.
Et je me
l'identité la plus simple à porter et les valeurs les plus simples à porter à défendre, c'est celle de l'école, de l'éducation. Ouais. Et encore une fois, le drapeau bleu blanc rouge va avec cette devise liberté, égalité, fraternité qu'on retrouve uniquement, quasiment uniquement, sur les murs de l'entrée de nos écoles, voire à l'état civil de certaines mairies, de certaines préfectures, mais c'est pas toujours le cas.
Ouais, ok. Je suis tout à fait d'accord avec toi, et bon, j'espère qu'on poussera un petit peu le débat chez les auditeurs. Je suis curieux de savoir un peu ce que vous en pensez. Donc, je m'adresse directement aux auditeurs si vous aussi vous partagez un peu le sentiment que David et moi on est en train d'évoquer. N'hésitez pas à nous le dire via les réseaux sociaux, sur Instagram par exemple ou sur Facebook. Je sais pas si toi, David, sur quel réseau t'es le plus présent, mais je crois un petit peu partout.
Aussi. On a besoin en tant que personne publique sportive d'être un peu présent partout. Et j'ai deux ou trois pages, j'en ai une qui a été piratée il n'y a pas très longtemps, Twitter malheureusement, donc j'ai de nouveau un tout petit compte.
C'est vrai.
Avec Paris le 24, on avait souhaité aussi créer un compte Twitter. Moi, je suis très présent sur Instagram, je le suis aussi sur Facebook parce que c'est ma page actuelle en tant qu'athlète de l'équipe de France. Moi, j'ai une page certifiée aussi officielle athlète, sur laquelle je communique aussi, mais automatiquement avec Instagram. Après, j'aime bien le format d'Instagram parce qu'il est peut-être plus moderne, peut-être un peu plus dynamique, un peu plus bon, voilà. Oui, bien sûr, on peut me retrouver sans problème sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn aussi pour un réseau professionnel qui est important, et Twitter parce que c'est un lieu où on peut débattre, ou se positionner sur le plan politique un peu plus. Voilà, chaque réseau a son utilité. Et ce sera avec plaisir d'ouvrir le débat ou le sujet, si certains le souhaitent, ou envoyer des questions si le sont des raisons. J'y répondrai avec plaisir en tout cas, quoi.
Ça marche. Et vu qu'on a beaucoup, l'heure tourne et on a beaucoup parlé de drapeau à l'instant, et je pensais qu'on allait aborder le sujet un peu plus tôt.
On parle de sport.
Ouais, exactement. Et c'était quand même une des grosses actualités pour toi récemment, puisque t'as été dis-moi si je le formule bien, mais tu as accepté la proposition de candidature pour devenir porte-drapeau à Tokyo cet été.
Oui.
Donc il y a eu
exceptionnel. J'ai été candidat à l'élection de porte-drapeau. Tout à fait.
Candidat à l'élection de porte-drapeau. Pardon.
Parce que
du coup, c'est qu'est-ce qui te le propose, ça? Qui vient vers toi pour te dire bonjour David, voulez-vous être candidat au poste de porte-drapeau?
C'est nos fédérations qui nous fait la proposition. On est libre de refuser, et dès lors qu'on accepte, il y a un comité directeur qui se réunit et qui fait une première sélection pour proposer en l'occurrence quelques athlètes masculins et quelques athlètes féminines. On était trois issus de la fédération. Quatre, deux filles et deux garçons, et donc on a été élus par notre fédération, et ensuite en deuxième instance c'est le grand public qui a voté pour choisir le binôme olympique et paralympique féminin et masculin, puisqu'on a depuis cette année deux porte-drapeaux. Mais au départ c'est une proposition qui nous est soumise au titre de performance, de notre parcours. Et puis, à partir de là, on peut accepter ou refuser. Et ensuite, c'est le comité directeur qui va choisir parmi tous les athlètes proposés, parmi une liste élargie, va choisir quelques-uns d'entre eux. Et j'ai eu l'honneur d'être choisi par ma fédération, la Fédération française d'handisport, pour défendre mes chances. Et voilà. Donc oui, c'est un fait d'actualité qui est important. C'est un honneur très, très particulier lorsqu'on est porte-drapeau. Et c'était bien formulé. Alors, pas dans le même sens, dans le même ordre, mais c'était bien formulé. J'ai accepté d'être candidat à l'élection de porte-drapeau et j'ai été élu par ma fédération pour faire partie de cette liste avec d'autres sportifs issus d'autres fédérations. Puisque, par exemple, autant l'athlète masculin que féminin paralympique qui porteront les drapeaux de l'Alliance française à Tokyo sont issus de deux fédérations différentes. Stéphane Oudé, de celle de tennis, et Sandrine Martinet, ouais, à qui je parlais tout à l'heure d'ailleurs, issue de la Fédération française de judo. Voilà.
Ouais, ok. Et cette année, c'était très particulier parce que c'était soumis au vote. Il me semble que c'est la première fois. Dis-moi si
c'est la première fois, en effet, que le grand public votait pour cette liste d'athlètes, votait parmi cette liste d'athlètes pour les futurs porte-drapeaux paralympiques, puisque pour les athlètes olympiques, ce sont les athlètes pairs, les athlètes de la CAN qui ont choisi, qui ont voté et qui ont choisi le binôme. Tout à fait. Mais d'accord, au niveau paralympique, c'est le grand public. Ce qui a, je rentre dans le débat directement, mais ce qui a amené un certain nombre d'aléas, on va dire. Voilà.
Vas-y, dis-moi tout.
Non, ben oui, un certain nombre d'aléas, c'est pas facile de convaincre le grand public en quelques mots. On n'a pas vraiment eu l'expression. On n'a pas eu la possibilité de s'exprimer, pardon, sur les sujets très en profondeur, nos engagements, par exemple, respectifs, etc. C'est plus une visibilité à l'instant T pour une fédération, un sport qui peut plaire. Et voilà, donc ça a pas été facile. Voilà, il y a eu un choix qui a été fait dans un combat assez serré finalement. Et je bois un petit peu d'eau. Assez serré finalement chez les garçons et chez les filles aussi. Bon, il y a deux athlètes qui sont détachés, mais le grand public se base sur quoi en fait ? Sur un personnage, sur une minute dans tout le sport où on a pu s'exprimer. Et puis après, c'est les réseaux sociaux, c'est la capacité à pouvoir avoir la visibilité, à être soutenu. Donc, ça peut être assez biaisé, hein, forcément, quoi.
Ouais.
Voilà. Ouais, après, ouais, je croyais vraiment en mes chances parce que j'avais beaucoup de soutien de gens fantastiques et j'en étais vraiment très, très ému d'ailleurs. Et les messages que j'ai pu recevoir ont été pour moi une véritable victoire en soi. Des mots de ma fédération, des mots de mon entourage, de sportifs, de gens que j'apprécie beaucoup. Je les ai cités tout à l'heure, les gens de la Patrouille de France, par exemple, qui m'ont adressé un message extraordinaire pour me féliciter pour ma candidature et me dire que quoi qu'il arrive, même si je n'étais pas élu, pour eux, voilà, je porterai le drapeau fièrement de la France parce que je suis aussi investi auprès de l'armée de l'air en tant que membre de la réserve citoyenne. Donc, ça avait beaucoup de sens pour moi, quoi. Voilà. Il n'y a pas que le côté sportif, mais la patrie en général. Mais ouais, j'ai vraiment reçu des messages incroyables de tout bord, une mobilisation vraiment dingue. Et ça s'est joué à 2300 voix, hein, je veux dire, ouais, pareil non plus. Au départ, Stéphane Oudé, que je connais bien, qui est un camarade de l'équipe de France et que j'apprécie, Stéphane était mis en pole position à 70% par l'équipe magazine au J-100 olympique et paralympique, enfin olympique. Et 70%, c'était vraiment une large victoire. Finalement, bah, ça a été 38%, et puis pour nous, 31% et 30,5%. Voilà, avec Pierre, c'est pas bon. Mais bon, c'est comme ça, hein, il faut un gagnant, il a eu plus de voix que nous. Je crois qu'aussi, le fait d'être tennisman à Roland Garros, ça a été un élément favorable pour lui et une belle visibilité, forcément. Hein, ça, c'est une certitude. Et puis sur les réseaux sociaux, quand on voit le nombre de personnes qui le suivent en tant que tennisman, ça aide forcément un petit peu aussi, quoi. Voilà.
Bon. Ouais, c'est sûr. Après, je pense, en tout cas, là où je te posais la question, c'était effectivement un peu sur la démarche, parce que effectivement, comme tu l'as dit, il y a plein de biais, quoi. C'est presque une campagne politique dans laquelle il faut avoir de la visibilité, il faut mettre des moyens, il faut distribuer, il faut être présent.
Mais sans pouvoir s'exprimer sur le sujet de fond, c'est un problème. On n'a pas pu avoir des réunions publiques pour parler de nos engagements. On n'a pas pu défendre notre beefsteak, vraiment. Donc, il faut être présent, il faut être visible, mais avec les moyens qu'on peut avoir pour le faire. On n'a pas eu la possibilité de s'exprimer. Il n'y a pas eu de grand débat à la télévision. On n'a pas proposé de pouvoir échanger peut-être plus que cinq, plus qu'une minute pour dire qui on est vraiment et pourquoi on aspire à être porte-drapeau. On n'a pas eu vraiment beaucoup d'occasions pour s'exprimer à ce sujet, et ça qui a été difficile, enfin, pour moi en l'occurrence. Je pense que j'aurais peut-être pu convaincre un peu plus si j'avais eu cette opportunité. Ça s'est joué uniquement sur la visibilité à l'instant T, quoi.
On a eu une petite coupure, je sais pas si ça vient de la technique, si on a touché à un truc sans faire exprès, c'est peut-être moi. J'en suis désolé, mais en tout cas, j'ai rien perdu.
Ça s'est enregistré apparemment, je crois. La première partie s'est enregistrée.
Tout est bon, ouais. On a rien perdu. Tout est bon, on n'a rien perdu, on n'a pas
assez. J'espère. Hein. Là, on repart, on est à 0-0, on a recréé
non, non, non.
En fait, il y a une heure, et au bout d'une heure, je crois que c'est le collègue, c'est ça, hein, je
pense. non, mais t'inquiète pas, tout est bon, et je gère la technique, tu n'auras pas à te répéter. Mais oui, non, sur le sujet, tu vois, du porte-drapeau, moi je voyais cet appel au vote, je trouvais que l'initiative était intéressante, tu vois, de proposer aux gens de participer, de proposer aux athlètes de faire une espèce de campagne un peu publique. Et il y a eu le moment où en fait je me suis dit bah ok, bah, pour qui je vote, et en fait je me suis dit mais sur quels critères je dois me baser, tu vois. Tu vois, pour un président ou pour un élu, t'as des critères un peu implicites. Peut-être qu'on les gens le notent pas ou les écrivent pas de manière concrète. Tu vois, comme effectivement le leadership, cette capacité à prendre, à faire des choix, cette capacité à embarquer des gens, cette capacité aussi à avoir des réflexions de fond et à choisir une très bonne équipe, par exemple. Mais là, je me disais, mais un porte-drapeau, qu'est-ce qu'on lui demande en fait, tu vois, et du coup, ben moi ça m'a troublé, tu vois, j'ai pas eu l'impression qu'on a bien communiqué par rapport à ça, tu vois, quel est le rôle du porte-drapeau aussi, et qu'est-ce qu'on va attendre de lui, et comment est-ce qu'on peut le choisir. Je sais pas si toi tu l'as ressenti, ou si, en tout cas pour toi c'est évident vu que toi tu étais candidat, mais c'est moi en tout cas j'ai été troublé, tu vois, par ça. Je te fais un retour de votant.
Je t'en prie, non, dis-moi.
Bah, et du coup, c'était mon retour, enfin, le retour que je tenais à te faire.
Non, je disais que je le comprends parfaitement parce que, bon, alors forcément, étant pleinement impliqué dans le projet, j'avais des choses à dire, c'est évident, mais je le comprends parce que on attend une visibilité, on attend d'être un ambassadeur du pays, on attend pas mal de choses, mais faut-il encore une fois pouvoir s'exprimer sur ces sujets-là, je pense, au-delà des sujets de fond. Voilà, c'est juste parce que je me suis beaucoup engagé pour le sport et que j'aurais aimé que cet engagement soit récompensé en honneur à mon investissement pour le sport français en général, la CAN, la commission d'athlètes de l'IPC, ou voilà, peut-être crédibiliser cette connaissance. Et ce patriotisme très très fort, ce leadership aussi, bien entendu, mais fallait-il encore pouvoir s'exprimer sur le sujet? Et ça a été très difficile. On pouvait juger de mon palmarès, et pour autant, j'ai un palmarès qui est plus gros que le vainqueur. Mais est-ce que c'est uniquement ça qu'il fallait mettre en avant? Je suis pas sûr. C'est un élément important qui peut justifier qu'on puisse mériter d'être à cette position ou pas. Chez les athlètes olympiques, Samir Atayeb, que j'aime beaucoup, que je connais bien, un gymnaste, n'est pas médaillé olympique, il a pourtant été élu. Alors qu'on disait à l'époque que l'un des critères fondamentaux, c'est d'être au moins champion olympique une fois, quoi. Ou médaillé à plusieurs reprises.
C'est vrai.
Bon, mais c'est un critère objectif qu'on a voulu mettre en avant cette fois-ci, pourquoi pas après tout? Je dis juste que, en ce qui me concerne, j'aurais aimé qu'on puisse avoir le temps de s'exprimer un peu plus, notamment sur ce que tu viens d'évoquer en tant que, comme politique, ce qu'on met en place en tant que politique, la question du leadership, nos choix, pourquoi et qu'est-ce qu'on voit comme message à faire passer, quoi. Est-ce qu'on est capable de le faire à l'international, au Japon? Est-ce qu'on parle plusieurs langues ou pas? Est-ce qu'on peut porter le drapeau de la France? Est-ce qu'on peut représenter la France, et à quel titre, dignement, quoi? Voilà. On avait tous, je pense, le mérite de pouvoir le faire, puisqu'on était proposé comme candidat et élu par nos fédérations. Donc, c'est qu'on avait bien des raisons pour ça. Mais le message, il est porté d'une façon ou d'une autre, quoi. J'ai toujours été voir les copains des différentes disciplines. J'échange avec eux au jeu régulièrement. Stéphane est un athlète vraiment remarquable, un très grand champion de tennis, mais c'est un sport pro. C'est pas forcément la plus belle représentation du sport olympique ou paralympique. Et j'ai pas forcément souvenir ou l'impression que depuis le début de sa carrière sportive, il a été investi d'une mission pour représenter les sportifs en e-sport ou paralympique en général. Peut-être qu'il l'a au fond de lui, dans son cœur, et je l'espère, mais c'est pas le sentiment que j'avais.
Oui, c'est sûr.
Et c'était à travers mes engagements que je l'ai prouvé, en tout cas. Et que j'ai voulu porter le mouvement paralympique aussi, et que j'ai cette reconnaissance des athlètes. Donc c'était un atout pour moi. Ouais. Bon, il y en a eu d'autres pour lui, et encore une fois, il faut un vainqueur, et je crois que on a peut-être choisi le tennis aussi. Bon, quand tu parles de Roland Garros, à un moment donné, à côté, tu mets la natation, ben, je crois qu'il n'y a pas photo, comme on dit. Hein. C'est pas facile de pouvoir se défendre. Surtout quand c'est le grand public, qui n'est pas forcément un public de sportifs, enfin, issu de public de sportifs. Ça peut être des gens qui ne sont pas dans les sports, ça peut être des gens qui votent comme ça pour soutenir quelqu'un sans forcément être eux-mêmes sportifs ou connaître le monde du sport. Donc, bon.
Ouais. Ouais, ouais, c'est. Mais écoute, c'est curieux, et c'est vrai que moi j'étais surpris de la démarche un peu générale avant ce vote, et je savais pas si c'était quelque chose de pertinent. Et effectivement, là, de te l'entendre dire, effectivement, ça fait se poser beaucoup de questions sur qu'est-ce qu'on attend d'un porte-drapeau, comment est-ce qu'on le choisit, et quelle est la légitimité à l'être. Mais écoute, ça te fait un challenge de plus, ouais. Peut-être pour Paris ou un futur espoir. En tout cas, c'est un défi que je te lance, que je me permets. Tu vois, il faut jamais rester sur un échec ou sur une déception. Mais peut-être j'avais une question. Ouais.
Non, je t'interromps. C'était le titre d'un communiqué que j'ai envoyé ou publié ou écrit 24 heures après pas mon échec. C'est pas un échec, mais après ma défaite, on va dire, en quelque sorte, on va dire ça comme ça. Et j'ai dit dans le grand titre, il y a des déceptions qui ne sont pas des échecs. J'ai pas le sentiment d'avoir été en échec. J'ai juste quelqu'un qui a eu plus de voix que moi parce qu'il a peut-être été meilleur, peut-être parce qu'il a une plus belle visibilité. Je pense pas avoir été moins bon ni forcément. On n'était pas dans un combat, hein, on était dans une représentation du mouvement sportif, et on voulait associer le grand public à cette démarche-là pour mieux connaître les équipes de France paralympique, pour les impliquer un peu à la démarche, et les impliquer pour qu'ils s'engagent aussi aux côtés des athlètes paralympiques. C'était aussi notre rôle et le principal même peut-être. Après, il y a forcément des voix, il y a forcément des choses qui sont passées, mais voilà, c'est dans ce sens-là que je voyais les choses, donc.
C'est vrai qu'à ce niveau-là, c'était une réussite. C'est-à-dire que collectivement, le mouvement paralympique en ressort grandi et en ressort mis en lumière. Tu vois.
Oui, mais avec certaines maladresses, parce que tout ne s'est pas passé comme prévu, comme ça. Pas de moi, hein, ni de l'élection, hein, mais de l'organisation de la candidature. Et des supports sur lesquels on a pu s'exprimer. Je pense qu'on aurait mérité un peu plus de visibilité ou de discussion pour pouvoir mieux nous connaître et passer des messages forts, il me semble, en tout cas. Sans être dans les sujets de fond et de débattre pendant des heures ou de faire une narration comme on le fait ou de raconter une histoire, qui on est et pourquoi, mais un peu plus, quoi. Peut-être un quart d'heure pendant une émission, être invité sur un plateau télé, tous les sept et puis de pouvoir s'exprimer ou voilà, par exemple, à un temps de parole égal, par exemple. C'était peut-être une opportunité de le faire, quoi. Le grand public, encore une fois, n'est pas forcément un public qui connaît le sport. C'est un public qui est ce qu'il est et qui vote pour quelque chose qui lui paraît être bien. Puis après, avec des parallèles parfois complexes et un électorat qui est complexe. Parce que qui vote réellement? On a été déçus d'avoir que simplement 40 000 et quelques votes en tout. 20 000 garçons, 20 000 chez les filles. C'est pas grand-chose sur la France entière, quoi. Et dans les réseaux que j'ai mobilisés, j'aurais espéré qu'il y ait plus de monde que ça.
Ouais. Ouais.
40 000 voix, c'est pas énorme. Hein. On voulait symboliquement dépasser les 50 000. Bon, voilà, c'est ce que c'est aujourd'hui. Mais bon, c'est.
Ouais, mais c'est pas non plus.
Un petit peu, c'est qu'il y a déjà eu un porte-drapeau en tennis juste 4 ans avant à Rio. Mon copain Michael Jeremias, qui a d'ailleurs joué en double avec Stéphane pour être médaille d'or à Pékin en 2008.
Ouais.
Donc on n'a pas forcément un turnover des disciplines et je trouve ça un petit peu dommage aussi. La natation aurait mérité, je pense, de porter le drapeau, pas que pour moi, mais en général, vu ses résultats, aurait mérité de porter le drapeau de la France aussi, quoi. Voilà. C'est plus ce qui m'a attristé qu'autre chose. Et c'est pour ça que j'ai vraiment voulu, dans mon communiqué que j'ai voulu écrire, pour remercier les gens qui m'ont soutenu et parce que j'ai eu de très 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 beaux messages qui m'ont beaucoup touché, y compris les messages de mes camarades, hein, qui ont été choisi ou pas forcément tous choisis. Dans les 7, il y en a 2 qui sont sortis du lot, mais les 5 autres m'ont adressé des messages aussi. On s'est tous soutenus et on a tous été ravis de participer à cette belle aventure qui a remis aussi un peu en lumière nos carrières respectives et qui nous sommes. Mais Il y a quelque chose qui est un peu décevant de ce côté-là. Bon, pas assez de voix, pas beaucoup de visibilité finalement. Et bon.
Mais ça, c'était pas non plus votre rôle, tu vois. C'est vrai que ça peut être toi, avec le recul, tu peux te dire, ok, c'est peut-être un petit peu décevant. Mais je veux dire, vous, effectivement, de manière individuelle, vous auriez pu élargir les horizons et aider justement à atteindre ce nombre de votants. Mais je veux dire, c'était pas que votre rôle, c'était aussi aux institutions et aussi, aux différentes institutions sportives de saisir un peu du mouvement et de saisir de la proposition et de tenter des choses. Et tu vois, oui, on n'en a pas entendu parler dans la presse mainstream, tu vois, il n'y a pas eu de d'affichage publicitaire non plus. Ça a été fait comme un test, tu vois. Moi, je le vois un peu comme une petite capsule, et ça a été un essai. Et peut-être qu'une prochaine fois, ça pourrait être intéressant de communiquer et de scénariser un peu plus effectivement ce vote, quoi.
Certains dans mon entourage, mon cabinet de kiné ou d'autres personnes ont mis la petite affiche avec mon portrait, mon parcours. Ils ont mis ce support de communication officiel qu'on a pu recevoir et qu'on a imprimé pour encourager les gens à voter. Mais c'est juste un portrait avec le titre portandrapeau.fr. Voilà, il n'y a rien de particulier. Mais on n'a pas eu de campagne publicitaire très très large. Ça s'est arrêté aux réseaux sociaux et c'est vrai que c'était, à mon avis, assez restreint. Alors oui, ça demande des moyens, ça demande un budget important du Comité paralympique, ça demande bien sûr quelque chose de différent et je le conçois, mais quand on veut associer le grand public, je pense qu'on peut faire un peu mieux, un peu plus peut-être, quelle que soit l'issue du vote. Hein, je ne suis pas en train de dire que ça allait changer quelque chose, mais
bien sûr,
il y a eu de la publicité à travers la publicité aussi à un moment donné, je pense. Voilà. Et encore une fois… Ouais. Et j'en suis très, très heureux et fier pour lui, hein. Mais encore une fois, Stéphane a bénéficié peut-être de Roland Garros aussi, une visibilité intéressante à ce moment-là, et tant mieux. Mais bon, voilà.
Ouais, je vois ce que tu veux dire.
Mais c'est un petit peu un test quelque part, et je rêvais qu'on puisse s'exprimer un peu plus. Voilà. Pour dire qui on est vraiment et pas qu'on s'arrête à une photo, à une minute de temps de parole sur tout le sport, c'était trop court, quoi. Une minute. On est vraiment que ça pour s'exprimer, hein. Après, on pouvait le faire nous aussi dans nos réseaux sociaux, mais j'allais pas faire une biographie et raconter toute ma vie sur les réseaux pour dire votez pour moi, voilà qui je suis. Les gens l'ont fait dans mon entourage. Certains ont mis mon palmarès en avant, ont dit qui j'étais, que j'étais engagé. Certains ont pris l'initiative de mettre quelques mots aussi, de faire des petites stories sur Instagram avec des mots très touchants et les en remercie beaucoup. Et qui pouvaient permettre au grand public de comprendre pourquoi j'étais investi et en quoi ça pouvait porter ses fruits, quoi. On s'est peut-être pris aussi un peu tard. Voilà. J'ai du soutien de gens qui sont très visibles et qui ont cru en mon projet et qui me connaissent aussi, qui ont voulu m'aider pour mettre à l'honneur, et je suis très touché pour ça. Mais peut-être qu'on l'a fait un peu trop tard et qu'il m'a manqué quelques mois. Bon, c'est comme ça. Okay. Mais après, je ne sais pas si je serais proposé comme candidat en 2024. J'étais pressenti en 2012 déjà, c'est pour ça que je parle de ça, parmi les trois athlètes pressentis. Bon, je pensais que c'était vraiment la chance d'une vie cette fois-ci et que ce serait le bon moment. Avec des choses très symboliques, encore une fois, la Patrie de France a voté pour moi et j'en étais très touché. Bon, c'est comme ça, quoi.
Ouais, écoute, en tout cas, merci de partager ces émotions-là et aussi ton avis sur la question. L'heure tourne pas mal et je voulais un petit peu clôturer peut-être sur à la fois ce sujet et sur cette conversation. Bien que je me régale avec une question qui est liée, tu vois, c'est de savoir est-ce que c'est pas aussi justement par rapport à cette élection là, est-ce que ça se fait pas sortir, j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de, il y a quand même pas mal de passages médiatiques et tout, on ça te force à communiquer, certains médias viennent te voir, tu vois, moi je te sollicite par exemple. Est-ce que c'est pas un peu se sortir de l'objectif principal sportif, tu vois? Comment est-ce que toi tu l'as vécu justement, parce que ça devait être quand même assez intense dans l'organisation.
Oui.
Il faut avoir le temps de tout faire. On est à deux, C'est quoi? C'est à entre 3 et 2 mois des jeux. Donc ça va vite. T'es dans une période qui est charnière. Ton temps il est limité. Tes ressources aussi, tu vois. Enfin, comment est-ce que tu t'en es sorti justement? Comment est-ce que tu t'es organisé par rapport à tout ça? Et est-ce que c'est pas justement un peu détourné de l'objectif principal qui est finalement le sport à la fin?
C'est une bonne remarque ou une bonne question. En effet, ça prend du temps, ça demande de l'engagement, de faire un peu campagne comme on peut, en espérant qu'on n'avait aucun retour sur les niveaux de progression des voix. On a eu l'information qu'à la fin, on n'avait pas de base. Ouais. Donc, il fallait donner le meilleur de soi-même, faire le maximum pour pouvoir trouver du soutien et le faire valoir. Donc c'est vrai que c'est assez chronophage, et la remarque que j'ai eue de mon webmaster, c'est de me dire que finalement, au-delà du résultat, encore une fois, c'était peut-être pas le meilleur moment pour faire ça, et qu'on aurait pu lancer cette campagne à un autre moment, plus tôt dans la saison, pour que ce soit moins proche des 2 mois, en l'occurrence de l'échéance de l'événement, quoi. Parce que c'est vrai que c'est prenant, que ça demande du temps, de l'énergie, et qu'on en perd forcément un peu ailleurs, quoi. Je vais pas cacher que c'est pas le cas, ça serait faux. Et même si pour autant le fait de pouvoir être élu aurait été une façon d'être encore plus galvanisé, d'être incontestablement encore plus motivé, parce que j'allais endosser ce rôle de porte-drapeau, cette responsabilité aussi d'emmener l'équipe de France derrière moi, quoi, avec en l'occurrence Sandrine Martinet en judo, puisque c'était elle qui a été élue au niveau paralympique chez les filles.
Ouais.
Mais oui, c'est pas faux. Peut-être que c'était pas forcément le meilleur moment de le faire au mois de mai. Il y a eu des reports. On aurait dû commencer plus tôt. Finalement, on a commencé plus tard parce qu'il y a eu des problèmes de Covid. Bon, des choses qui sont passées avec des athlètes qui ont été malheureusement positifs. Ça a reporté un petit peu le tournage. Et le tournage qui était la promotion de nos athlètes avec des petites vidéos par sport où on parlait de nos grands thèmes, ce que ça évoque pour nous, des messages clés, des messages forts, voilà, qu'on a pu contrôler aussi. Bon, il a fallu tourner des choses aussi et mettre un peu de communication derrière tout ça. Et peut-être que de le faire au mois d'avril ou après les Europes, mars, c'est peut-être mieux qu'au mois de mai ou au mois de juin, c'est sûr.
Okay.
Probablement.
Okay, okay.
Plus loin de l'échéance. Les athlètes olympiques n'ont pas ce souci-là parce que c'est pas une campagne qu'ils font. Ils sont choisis par les athlètes, tout simplement.
Bien sûr.
On regarde un parcours, un palmarès, mais ils ne font pas campagne officiellement. Nous, on a eu 3 semaines de mobilisation qui a été assez intense. Passionnante, mais intense.
Bon,
mais oui, c'est vrai.
Écoute.
C'est pas faux. Maintenant, bon, okay. Je ne pense pas pour autant que c'était de me détourner l'objectif premier, parce que j'ai resté motivé pour la compétition et l'entraînement, même si ça m'accaparait un petit peu de temps et que je vois entre il y a un mois et aujourd'hui, j'ai peut-être plus la tête à la compétition que je l'avais il y a un mois, parce que j'étais aussi pris par ma campagne ou pris par cette envie de réussir et d'avoir le maximum de soutien autour de moi. Et,
ouais.
Et bien sûr que c'est une réalité aussi, c'est très juste, très juste.
Ok. Merci mille fois David, parce que j'ai passé un super moment. Tu vois, j'ai adoré parler de patriotisme, de comprendre le rôle du porte-drapeau, de ce que c'était que recevoir une médaille du mérite. Et c'était vraiment top. Écoute, j'espère que toi aussi t'as pris plaisir pour cette interview. J'aime bien demander à chaque athlète que je peux interviewer c'est un petit peu comme un passage de drapeau, mais c'est plutôt un passage de micro. À qui tu aimerais que je donne la parole, tu vois, sur une prochaine interview de ce type? Ça peut être une athlète ou un athlète que tu apprécies particulièrement et qui aurait des choses intéressantes à dire, un parcours inspirant pour les auditeurs. Qu'est-ce que tu me recommandes d'aller voir?
C'est une bonne question. Il y a tellement d'athlètes que je connais, puisque je suis membre de cette commission d'athlètes, alors c'est pas facile.
C'est vrai que t'en as cité déjà beaucoup.
Bah oui, et puis tu m'as parlé de Astrid Guillard, la sœur de Brice, pardon. Tu m'as parlé d'Ayodele, avec qui je m'entends très très bien. À la CAN, il y a plein de gens fantastiques qui pourraient s'exprimer sur de nombreux sujets. Il y a deux personnes à qui je pense que j'apprécie beaucoup. La première, c'est Virgile Dedieu, ancienne championne du monde de natation synchronisée qui s'appelle maintenant la natation artistique. Virginie est très engagée ouais. aussi, elle a beaucoup à dire dans plein de sujets et elle sait que je suis investi. J'ai une fondation au Cameroun qui milite en faveur du sport et j'essaie d'en faire quelque chose de bien aujourd'hui. Par ailleurs, étant l'un des candidats sélectionnés pour un programme d'incubation avec Paris 2024 et l'Agence française de développement via le Yunus Sport Hub, voilà, au nom du professeur Yunus. Donc, elle okay. donne de mon temps aussi pour créer quelque chose de bien et faire de mon parcours sportif un héritage intéressant pour un beau projet qui est une fondation qui fait plein de choses en Afrique, voilà, ouais. au Cameroun. Virginie est très engagée aussi à sa façon. Elle fait plein de choses et elle continue à mettre en avant cette belle discipline à travers des galas, à travers des engagements. Elle est architecte aussi, donc elle a pas que la natation ou pas que le sport. Hein. Bon, moi, c'est pareil, j'ai différentes fonctions professionnelles, mais oui, Virginie est quelqu'un qui a un parcours en tant que sportive incroyable, qui était aussi membre de la CAN avec moi, et j'ai beaucoup apprécié de travailler avec elle et porter les sujets et échanger sur de nombreux sujets. Donc, pourquoi pas Virginie en 1 ? Ce serait une élégante fille, une très jolie fille qui a plein de qualités, plein d'atouts. Puisque Astrid est déjà passée par là, il y a Yodelé aussi. donc bien ouais. sûr Virginie. Et puis je penserai en second lieu à Émilie Gomis que j'aime beaucoup aussi et Émilie qui a toujours voilà porté haut le flambeau du sport français et qui est investie aussi dans d'autres sujets sur lesquels elle s'exprimera en personne je pense. Mais pourquoi pas Émilie Gomis ou Virginie. Et chez les athlètes masculins. Chez les athlètes masculins, il y a deux personnes, je dirais. Le frère d'un champion du monde, qui est aujourd'hui mon nutritionniste, mon diététicien, Romain Giroud,
D'accord.
frère d'Olivier. Romain a joué au football à assez haut niveau aussi. Il a quitté la sphère des très hauts niveaux de foot pour différentes raisons. Voilà. Donc, Romain, parce qu'il a aussi une vision du sport à travers l'expérience de son frère et la sienne aussi, sa propre expérience en tant que footballeur, et celle de son frère aujourd'hui,
okay.
Qui peut être intéressante. Et puis, en deuxième lieu, chez les garçons, quelqu'un avec qui je m'entends très bien, c'est Vincent Clerc. Donc, Vincent, okay. Qui est un rugbyman de l'équipe de France, qui a vraiment brillé et qui est aussi lui-même investi, engagé dans plein de sujets, plein d'actions. Donc, ils ont fait de leur carrière sportive de véritables atouts pour rebondir, pour faire avancer notre société en général. Que ce soit Émilie, alors bien sûr Astrid à Yodelé, bien entendu, et je pense que les auditeurs ont pu les entendre si tu les as interviewés, mais Astrid, bien entendu, Émilie, bien entendu, Virginie de Dieu, et pour les garçons, Vincent et Romain, je pense que ça serait marrant parce que il a souvent pris le micro pour son frère. Olivier s'exprime bien okay. sur de nombreux sujets, il a ses qualités aussi autres que footballistiques. Mais parfois, lassé des interviews lambda de la presse qui tourne au sol d'un seul débat, sa place en équipe de France et les buts qu'il a marqués, et pourquoi il joue pas à Chelsea, ou s'il est là, bon bref. Pour le ouais. coup, il va être transféré dans un grand club italien dans quelques jours, ou quelques mois. Je ne sais pas exactement quand ce transfert est prévu, mais il y a une ceinture qui vient de se faire, donc il pourra aussi se justifier à ce sujet-là. Mais son frère, Romain, a pris la parole aussi parce qu'il connaît le monde du foot. Il a aussi du recul sur ces choses-là. Et parce qu'il a décidé de s'investir pour les sportifs de la plus belle manière avec la nutrition, la diététique qui est très importante, qui est un facteur très important pour le sport, quelle que soit la discipline. Donc voilà, il a suivi Mathieu Bastaro en rugby, il a suivi Mathieu Debuchy, il a suivi moi-même, il suit Alex Giroud, un pilote de quad qui a fait Dakar plusieurs fois, qui est un super pilote français, qui est un garçon fantastique, vraiment charmant. Donc ouais, pourquoi pas Romain et Vincent.
Et ben écoute, merci infiniment pour tes 4 recommandations. Je vais m'empresser de leur écrire un petit message. Bien sûr, ouais. Et ben ouais, je vais m'empresser de leur écrire un message très chaleureux et hyper sympa pour leur proposer de passer. En tout cas, merci beaucoup et ça me tente vraiment tous les noms que t'as dit parce que je sais venant de ta part que je pourrais les challenger sur des sujets qui me tiennent à cœur. Donc vraiment merci infiniment.
Bien sûr,
et Merci infiniment. Et écoute, merci beaucoup d'avoir pris le temps ce soir, en cette soirée d'été là, qui va être un peu tard, va bientôt être 20h l'heure du dîner. Donc je vais te laisser retourner un petit peu à tes occupations et peut-être aussi te profiter un petit peu de ton temps libre et de ta soirée. Moi j'ai passé un super moment, donc franchement merci beaucoup David. Et écoute, je te souhaite à très bientôt et je te souhaite plein de bonnes choses pour ce prochain voyage en terre japonaise.
Merci pour l'invitation encore. C'était un bon moment aussi et c'est toujours intéressant d'échanger. Et puis pour le soutien, bien entendu. 5e jeu, c'est pas rien. Et j'ai hâte de découvrir le Japon que je ne connais pas pour ses vertus, pour son histoire aussi et le sens du mot honneur aussi dans ce pays. Alors certes, il y a une situation particulière en ce moment avec le Covid, mais on va faire au mieux et ouais. Et j'espère que ce sera de très beaux jeux, en tout cas dans quelques mois. On a encore un peu de travail sur la planche, à l'inverse des camarades olympiques qui commencent dans 4 jours. Mais c'est vraiment un bon moment. Et puis merci d'avoir donné la parole sur tous ces sujets. Et je suis sûr que si tu arrives à avoir nos invités en ligne, les deux filles et les deux garçons, au moment opportun, en tout cas, ce sera un beau discours aussi. Rappeler qui sont ces grands champions, parler de leur parcours. Et puis ils ont plein de choses à dire aussi. Et ce sera de belles interviews, j'en suis convaincu, et tu pourras vraiment les challenger de ma part en particulier, en disant que c'est moi qui ai vendu la mèche, que de les faire parler un petit peu, quoi. Mais ils auront plein de choses.
Ça marche. Bien sûr. Ça marche avec grand plaisir.
Bah, écoute, passer le flambeau, on va dire. Voilà ce qu'il faut dire comme ça.
Exactement. Passer le flambeau. Écoute, merci beaucoup, David, et je te souhaite une bonne fin de soirée. Je te dis à très bientôt.
Merci, ciao. À très bientôt. Au plaisir. Salut.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu, donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao.
When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do and start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner. Kia. Movement that inspires. Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year, 100,000-mile powertrain and 5-year, 60,000-mile basic. Warranties are limited. See retailer for details.